Il y a deux types qui découvrent le cinéma, à qui on donne un premier rôle, c'est inespéré, un film de duo qui nous ressemble parce qu'on était réellement tous les jours en duo avec Thomas à cette époque-là. Et tout ça, bah, ça fait effectivement à l'arrivée un film sincère.
C'est avec ces mots que Fabrice Eboué évoque l'aventure Casse Départ, son premier film co-réalisé avec Thomas Ndjijol et Lionel Stecchetti. Un film couronné de succès en 2011 qui raconte une page sombre de l'histoire avec humour. C'est l'histoire de deux hommes. Ils vont se retrouver à devoir se rendre au chevet de leur père mourant aux Antilles. Ils espèrent en fait récupérer l'héritage. En fait, c'est un acte pour affranchir leur ancêtre esclave. Ils sont un peu déçus, ils sont un peu dépités par cet héritage et donc en fait ils vont le déchirer. Et c'est en le déchirant qu'ils vont retourner dans le passé, au XVIIIe siècle, dans les Antilles françaises, et ils vont devenir des esclaves. Casse Départ dans les coulisses de la première comédie française sur l'esclavage. Pas moins de 3 réalisateurs ont été mobilisés pour le tournage de Casse Départ. J'en ai rencontré 2 d'entre eux, Lionel Stecchetti et Fabrice Eboué. Le premier est un vieux routard du cinéma. Il a été longtemps premier assistant réalisateur, notamment sur Le Pacte des Loups de Christophe Gans. Fabrice Eboué, on le connaît un peu plus. C'est une des figures marquantes du Jamel Comedy Club, aux côtés de Thomas Ndjijol. Tous les deux vont réaliser ensemble leur premier film. Et on commence avec Fabrice Eboué, qui nous raconte comment il a eu l'idée de Casse Départ.
C'est loin maintenant pour moi, Casse Départ. S'il y a plus d'une dizaine d'années, le temps que l'idée germe, c'est peut-être 2009, quelque chose comme ça. On cherchait à faire en tout cas une comédie qui nous ressemble. Et c'est vrai qu'on était en plein dans les thèmes d'identité nationale. Puis en échangeant au fur et à mesure, c'est vrai que rien n'avait été fait sur l'esclavage, ni de sérieux évidemment dans un premier temps. Et moi, c'est pas l'esclavage qui m'intéressait comme terme, c'était le terme de l'identité. Mais je me posais la question, c'était comment aborder ce thème de l'identité tout en restant dans une comédie.
C'est un sujet extrêmement atypique, voire tabou. Le cinéma français ne s'est jamais emparé de cette époque ou à quelques occasions. Pour aborder cette thématique extrêmement complexe, Fabrice Eboué a un stratagème.
Je me suis dit que le vieux processus finalement qui consistait à remonter le temps était peut-être le plus judicieux. Ça permettait de passer à une époque, en l'occurrence l'esclavagisme, où là effectivement le problème des entre guillemets de la couleur, de l'identité allait au-delà de tout puisque ça générait un génocide, une violence, etc. Donc évidemment mettre les deux époques en parallèle, c'était une façon maligne, je dirais, de mettre en lumière ce qui se passait aujourd'hui et permettre à nos deux personnages de prendre conscience de certaines choses. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est montrer que quelque part le nègre de maison existe encore. Évidemment qu'il a pris d'autres aspects, que c'est moins violent, que les rapports sont différents, mais que tout ça peut perdurer d'une manière ou d'une autre. Comme la rébellion gratuite contre tout et n'importe quoi sous prétexte de « je suis noir, donc on m'aime pas » est une excuse systématique du personnage de Thomas, voilà, et qui va aller dans le passé, qui va voir ce que c'est que réellement être violenté parce qu'on est noir. Donc voilà, il faut trouver le bon curseur surtout, quoi, selon son époque, selon sa période.
Quand Fabrice Eboué présente le projet à Lionel Stecchetti, il est aussitôt charmé. Les deux hommes se sont rencontrés quelques temps auparavant sur le tournage de Fatal Bazooka, la comédie de Michael Youn. Ils vont se rencontrer, ils vont parler et il va lui présenter le projet.
C'était pas juste de la pure comédie un peu potache, il y avait un vrai message qui pour moi n'est pas une comédie comme on l'a dit souvent, comédie sur l'esclavage. Pour moi c'est une comédie sur l'insertion, sur deux cons et qui comment est-ce que voilà, tu vas apprendre à ces deux-là à comprendre la réalité de pas oublier d'où viennent leurs familles. Et donc on est beaucoup plus sur une comédie presque actuelle qu'une comédie sur l'esclavage. Souvent on me dit ouais, c'est une comédie sur l'esclavage, comment vous pouvez faire une comédie sur l'esclavage? Non, c'est pas une comédie sur l'esclavage. L'esclavage, c'est un peu c'est le contexte, mais c'est surtout montrer comment ces deux gars peuvent évoluer par cette aventure et puis se rendre compte que finalement ils sont peut-être pas si mal lotis. Il y a quand même des choses qui sont pas si mal dans nos sociétés actuelles. Il y a certaines comédies qui ne sont que dans l'humour et dans la vanne et dans les situations de comédie. Là, c'est un petit peu plus subtil, quoi, on va dire. C'est ce qui fait le succès, je pense, et c'est ce qui fait que les gens l'ont apprécié et continuent à le voir à la télé.
L'un des avantages du film, c'est que Fabrice Eboué et Thomas Ndjijol se connaissent extrêmement bien. Il y a une réelle complicité entre les deux. Le film Casse Départ est réellement le reflet de la relation d'amitié qu'avaient à l'époque les deux humoristes.
On était tout le temps ensemble avec Thomas à l'époque, on échangeait beaucoup. Je peux pas vous dire exactement si on a tourné autour du pot. Et puis après, l'idée c'est qu'on crétiser dans une tête ou dans l'autre. Voilà, bon, moi, c'est vrai que mon créneau premier, c'est l'écriture, donc voilà, mais c'est un film qui est vraiment, je dirais, qui est le reflet de la complicité qu'on avait à l'époque. Ouais.
Alors, on peut se poser évidemment la question, comment deux acteurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience au cinéma, qui n'ont pas une très grande notoriété, vont réussir à financer un film au sujet aussi complexe, aussi polémique? C'est ce qui est très étonnant avec Casse Départ, c'est que tout va se faire dans une espèce de grande facilité, avec une grande aisance. Ils ne vont pas rencontrer plus de difficultés que cela. Évidemment, à l'époque, il y a un peu plus de budget pour les films. Thomas Gijol, comme Fabrice Eboué, se lance dans le projet un peu la fleur au fusil. Il y a une vraie insouciance.
On est aujourd'hui en 2022, on parle d'un autre cinéma. On parle d'un cinéma, la preuve, où on fait 2 millions d'entrées, ce qui est aujourd'hui est extrêmement rare. C'est plus du tout les chiffres qu'on fait aujourd'hui. Alors il faut s'accrocher. Il y a quelques films de franchise qui les font en France aujourd'hui. Sinon, c'est les super-héros américains. Mais on parle d'une autre époque. Il n'y avait pas les plateformes. Il y avait le début de la communication via les réseaux, etc. Non, tout était très neuf. Donc le financement n'a pas été compliqué en soi. Et tout a été très naïf dans ce film. C'est ça qui est intéressant, vous me parlez de financement à une époque où moi, quand on écrit ce film-là, j'ignore tout ça. La seule réelle expérience que j'ai d'écriture, c'est la série Inside Jamel Comedy Club que j'ai écrit avec Blanche Gardin à l'époque.
En fait, Fabrice Eboué, il va apprendre sur le tas à faire des films. Il va lire des livres de scénario, il va regarder des dizaines de comédies pour comprendre comment ça se fabrique, comment ça s'écrit. C'est un peu un cours intensif de cinéma.
Ça a été un travail totalement naïf, de la genèse à la fin du projet. C'est-à-dire la tournée des avant-premières, on découvrait tout. Et puis surtout, sur place, on y va en meilleur ami du monde avec Thomas, on est là pour se marrer, on découvre ce que c'est que écrire un film au départ, préparer un film ensuite, réaliser ensuite, on apprend tout sur le moment, et on l'apprend dans la bonne humeur, la candeur, la naïveté.
Alors ils ont le financement, ils ont écrit, ils ont trouvé les techniciens pour faire le film. Il manque le lieu pour tourner. L'idée, c'est de tourner évidemment dans les Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, mais ça a posé problème.
On est parti, juste le directeur de production, le chef déco et moi, là-bas. On a envoyé le scénario à différentes personnes, parce qu'on tenait évidemment à d'abord tourner dans les dom-toms. Et on n'a pas pu y tourner, simplement parce que les personnes qu'on avait contactées trouvaient que c'était ce qu'on appelle les béquets, c'est-à-dire que c'était les descendants des blancs dans le film, en fait, des esclavagistes dans le film. En fait, les gens actuels trouvaient qu'on allait beaucoup trop loin, que c'est beaucoup trop dur, et qu'il fallait changer le scénario. Donc évidemment, on a refusé, il était hors question de changer le scénario pour ça. Donc on est parti, finalement, on est parti à Cuba, ce qui était un petit peu l'ironie du truc, quoi. C'est qu'on a quand même tourné dans une dictature, il faut bien le dire, voilà, ils nous ont accepté et accueilli merveilleusement. Donc ça s'est extrêmement bien passé, très très bonnes équipes.
Tourner à Cuba, étonnamment, malgré la présence très forte de la dictature, ne pose aucun problème. C'est même plus avantageux pour eux de tourner là-bas.
Cuba, à partir du moment où tu ne parles pas de la politique actuelle, ou en tout cas des 50 dernières années, de leur politique actuelle, ça ne les dérange pas du tout. Au contraire, eux, c'était quand même l'occasion déjà de faire un gros film. C'était financièrement, on a quand même dépensé pas mal d'argent là-bas. On a fait travailler beaucoup de gens. Donc on a été vraiment accueillis vraiment à bras ouverts. On n'a eu absolument aucun problème, ce qui était un petit peu ironique, mais bon. Mais le fait de l'avoir tourné à Cuba aussi nous a permis de donner une certaine qualité au film, une qualité artistique, donc ce qui me touchait en premier lieu. Et c'est vrai que si on l'avait tourné, je pense, aux Antilles françaises, ça aurait coûté évidemment beaucoup plus cher, parce que forcément c'est pas les mêmes tarifs que ce soit des techniciens, des figurants ou autres. Donc ça a été plutôt une bonne aubaine.
Sur le tournage, Fabrice Eboué découvre comment on fait un film. Ce qui est intéressant aussi avec Casse Départ, c'est que la création du film, le tournage du film va coïncider avec ce moment où les comiques vont prendre en charge leur destin, vont commencer à réaliser leur propre film pour maîtriser leur image. Il y a eu Fatal Bazooka juste avant de Michael Youn. Là, il y a Fabrice Eboué, et dans les années qui vont suivre, il y en aura de plus en plus.
Je découvrais chaque poste, je découvrais ce que c'était que le cinéma, je découvrais chaque métier du cinéma en même temps. Et c'est pour ça que on nous propose, nous, c'est le début des, je dirais, des comiques réalisateurs. On nous propose tout de suite de réaliser ce film-là. Et moi, j'ai dit à Thomas, écoute, moi, j'ai aucune connaissance en réalisation. Je ne sais pas ce que c'est que le cinéma globalement. J'avais jamais eu de velléité de cinéma. Les choses, moi, viennent, je les prends comme ça. Et là, j'avais croisé effectivement Lionel Stechiti sur le film dont je parlais précédemment, Fatal Bazooka de Michael Youn. Michael étant un peu dans le même cas que nous, je crois que c'était son premier film en tant que réalisateur. Donc lui, il avait pris en premier assistant Lionel, qui est quelqu'un de très compétent, qui lui a fait une école de cinéma aux États-Unis, donc qui est quelqu'un de très compétent techniquement et au niveau de l'image. Et donc, je crois que c'était indispensable. Il fallait pas ça. Même si le propos, c'est nous. D'ailleurs, c'est un propos qui nous concerne directement et qu'on se raconte. Pour mettre tout ça en image, il nous fallait un professionnel et quelqu'un qui s'y connaisse et qui puisse nous apprendre aussi.
Sur un film, tout le monde a un poste extrêmement défini. Surtout quand il y a trois réalisateurs. Lionel Stechiti va plutôt superviser l'aspect artistique, l'aspect visuel, l'aspect technique. Et pendant ce temps-là, Fabrice Eboué et Thomas Gijol vont plus se concentrer sur le jeu d'acteur.
Ils étaient tous les deux devant la caméra, donc ils avaient aussi besoin d'un troisième œil, même d'un sixième œil, on va dire, pour pouvoir un petit peu les guider. Mais Fabrice étant un très bon directeur d'acteur, il savait très bien ce qu'il voulait. Donc ça a été très complémentaire sur ce film. Et c'est vrai, vu le sujet du film aussi, qui était quand même un petit peu délicat, quoi. Je veux dire, on a quand même eu beaucoup de critiques à la fin des critiques très positives, mais aussi quelques critiques négatives. C'est vrai que moi, en tant que en tant que blanc français, que très loin des soucis ou des thèmes du film, ça aurait été, je pense, encore plus difficile si moi je l'avais signé seul. Ça c'est une évidence.
Alors on peut se poser la question, pourquoi deux acteurs sans réelle compétence technique se lancent dans ce film? En fait, tout repose sur le sujet. Fabrice Eboué, lui, il se sent extrêmement légitime pour faire le film. C'est un sujet qui le touche personnellement, et c'est pour cette raison qu'avec Thomas Gijol, ils insistent, ils persistent pour réaliser le film, malgré le fait qu'ils n'ont pas les compétences techniques pour le réaliser.
Un réalisateur, c'est quelqu'un qui porte le sens et l'âme du film, et qui va diriger ses équipes pour retranscrire ça le mieux possible. Donc vous pouvez être un génie de l'image, si vous n'avez pas la philosophie du film, si vous ne portez pas ça en vous, ça ne donnera rien. Et il y a des génies de l'image qui font essentiellement des films de commande, parce qu'ils ne sont pas capables d'amener un propos. C'est toujours un grand débat qu'on a.
C'est assez rare pour le noter, malgré le fait que tous les réalisateurs sont novices, il y a eu une entente parfaite entre les trois hommes. Il n'y a eu aucune guerre d'égo.
J'ai parlé de la bonne humeur de ce film par sa candeur, par sa naïveté, par le côté nouveau. C'est aussi cet équilibre qui a permis que ce film existe de cette façon et d'avoir une super ambiance de plateau, parce que tout le monde avait la responsabilité puisque c'était notre premier film à tous les trois. Un film qu'on partage et je suis très heureux de l'avoir fait comme ça parce que ça me semble juste et c'est ce qui a permis d'avoir 6-8 semaines de bonheur.
L'ambition de l'équipe est de parler de cette période avec réalisme. Le sujet est extrêmement touchy. Mais ils veulent montrer tout à l'écran, du marché aux esclaves à la cale du bâtonnet grillé. Les images d'ailleurs sont souvent extrêmement dures dans le film. Le quotidien des esclaves y est d'ailleurs reconstitué avec soin.
Je sais que quand j'ai écrit, j'ai dit le plus important, c'est que malgré tout, on voit tous les moments de l'esclave. Alors il y a la vente, mais il fallait un moment où il soit dans la cale du bateau, puisque c'est quand même la représentation de la déportation de l'Africain. Et donc c'est ce moment-là, c'est pour ça qu'on le voit. C'est pareil, on voulait qu'il soit sombre, qu'il soit dur. Et je peux vous dire, et cette journée de tournage d'ailleurs a été dure, parce qu'ils étaient tous allongés pendant toute la journée. Il fallait tourner ça rapidement, etc. Il y avait des gouttes d'eau qui tombaient, machin, etc. On ne voulait pas, rendre l'époque drôle. C'est pour ça que même si nos personnages le sont de par leur tribulation, on a voulu garder un cadre dur qu'on voit rarement dans une comédie d'ailleurs.
C'est ça qui fait la force aussi du film, Casse Départ. C'est que l'image, ce n'est pas l'image d'une comédie classique. Une image de comédie classique, elle est souvent sans relief, elle n'a pas d'ombre, alors que là, elle a beaucoup de zones d'ombre. C'est une image vraiment de drame historique. C'est aussi l'ambition de Fabrice Eboué. Dans tous ses films, Fabrice Eboué, il veut réaliser des comédies qui sont extrêmement soignées.
C'est sûr ce que j'essaye de faire, en tout cas moi, dans mes films, que ce soit ensuite le Crocodile, que ce soit Coexister, que ce soit Barbac, c'est toujours conserver la dureté du cadre. Je pense qu'on a toujours tendance à penser qu'une comédie, il faut absolument que tout soit too much ou tout soit caricaturé. Non, je pense que quand on a envie de dire des choses, de critiquer une époque ou autre, on peut faire aussi évoluer les personnages d'un certain réalisme.
Dans ce contexte, il faut évidemment que le jeu des comédiens suive et il doit être extrêmement sobre, le plus sobre possible. Il n'y a aucune improvisation ou très peu. La comédie se mêle sans cesse au drame. C'est toujours les personnages qui vont apporter la comédie, c'est pas les situations. Il y a notamment une scène qui est très marquante, c'était d'ailleurs l'affiche du film. C'est une scène où les deux personnages vont se retrouver en sous-vêtements au marché aux esclaves. Alors, la scène, elle fait pleurer, la scène, elle est très émouvante, elle est très forte. On ressent leur souffrance. Et il y a un détail qui fait pleurer de rire la salle, c'est que les deux acteurs portent des caleçons rouges et jaunes.
Je sais plus si les couleurs sont mentionnées dans le scénario, mais en tout cas, moi, je voulais des couleurs très flashy, où vraiment, on commence sur eux en gros plan, et quand on recule, voilà, en fait, on ne rit pas au début du plan. Et puis, dès qu'on voit les deux types en caleçon, on se marre, alors que c'est hyper dramatique, quoi. Et ça a été une des scènes. Il y a eu cette scène-là et la scène de la cale qui ont été assez compliquées, je pense, pour les deux comédiens, parce que tout d'un coup, en plus, la scène du marché, on l'a tournée dans un vrai marché à esclaves, à La Havane, qui était le vrai truc, qu'on a évidemment transformé, parce que là, c'est un musée. Mais ça a été, il y a quand même pas mal d'émotions parce qu'on s'est dit, on est en train de faire un truc qui est supposé être drôle, mais avec ces figurants qui étaient là, je veux dire, c'était quand même, il y a un côté, on rigole, mais c'est quand même, ça s'est passé, les gars. Donc c'était quand même un peu particulier.
Autre détail extrêmement important, dans le film, tous les personnages blancs sont racistes. Aucun personnage n'est là pour rattraper l'autre.
On sauve le plus jeune, l'enfant. On donne un côté très paternaliste à feu. Mon ami Étienne Chicot, qui joue Monsieur Jourdain, le maître, comme on dit, de la plantation. Après, évidemment, on n'était pas là pour la complaisance. On était là pour décrire une époque en une heure et demie. On n'a pas le temps forcément, c'est pas racine. On n'a pas le temps non plus de nuancer. Les rapports de cette époque-là n'étaient que brutalité, forcément, même s'il y a certainement des histoires dont on pourrait tirer qui sont peut-être certainement différentes, mais je dirais, si on prend dans la globalité, c'était quand même un rapport d'oppression, de violence, de génocide permanente.
Réalisé à 3, ça s'est plutôt bien passé. Par contre, monter le film à 3, beaucoup plus compliqué. Lionel Stechetti s'en amuse aujourd'hui, mais il a fallu trouver des astuces pour faire le montage sereinement.
J'allais dire, la seule difficulté en montage, mais ça a été très vite résolu, c'est que ça m'a fait assez rire, c'était dès le début du montage où je montrais, je montais avec ma monteuse, Fred Olzac, et on faisait venir, parce que je sais que Fabrice et Thomas n'étant pas, en tout cas à l'époque, peut-être maintenant ça a évidemment changé, mais à l'époque, ils n'avaient pas la patience de rester pendant 10 heures dans une salle de montage, c'est quand même un petit peu fastidieux, ou même moi parfois, c'est quand même très très long. Mais je les faisais venir, je crois, tous les 3 jours. Et les 2 ou 3 premières fois, je les faisais venir un par un, parce que l'un n'était pas disponible ou je ne sais quoi. Et je me souviens d'une scène où, je ne sais plus lequel des deux, mais Fabrice arrivait en disant « Ouais, non, la fin de la scène, il faut finir par moi, il faut finir par ma réaction. » Ok, très bien. Bon, je regarde, ça marche. Moi, je n'ai pas de problème. Je veux dire, voilà. Et 2 jours plus tard, Thomas arrive et la même scène, il me dit « Ah non, mais moi, non, il faut finir par mes réactions. » Bon, là, j'ai dit « Bon, ok, ça ne va pas se faire comme ça, les gars. » Donc, je vous fais venir tous les deux. Et puis après, moi, je donne mon point de vue. C'est après, comme on est 3, l'avantage, c'est qu'il y a forcément 2 contre 1. Ou personne n'est d'accord, mais en tout cas, s'il y a conflit, on va dire, ou s'il y a désaccord. Donc là, en tout cas, j'ai appris que quand on fait un film avec 2 comédiens, en plus, s'ils sont co-réalisateurs, il faut évidemment faire le choix d'avoir tout le monde ensemble, parce que sinon, c'est un petit peu insupportable. Mais je me souviens pas sur Case Départ de on n'avait pas vraiment de conflit. Il y a quelques scènes qu'on a retirées pour des raisons, c'est un peu auto-censuré, sur tout ce qu'il y a des scènes qui avaient plus trait à l'homosexualité. De l'un, de l'autre, c'était un petit peu lourd, donc on s'est dit, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, c'est un petit peu hors sujet, donc il y a une scène en particulier, je crois qu'on a retirée, voilà.
À la sortie du film en 2011, le succès est au rendez-vous, c'est un carton absolu, plus de 2 millions d'entrées. Le trio de réalisateurs vit cela comme un triomphe, mais reste très étonné du succès qu'a rencontré à cette époque le film.
C'est mon premier film, donc je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, 100 000 entrées ou 120 000 entrées le premier jour. Aucune idée. On a eu une phase formidable, on a fait une tournée, je ne sais plus combien, mais une assez grosse tournée. Donc là, c'était formidable parce que toutes les salles étaient pleines. Alors, c'est aussi le danger des tournées, parce que j'en ai fait pas mal depuis, c'est que toutes les salles sont pleines, ça ne veut pas dire que le film va avoir un gros succès, parce qu'on a quand même le cœur de cible, on va dire, qui vient. Donc on a 200, 300 personnes qui viennent. Donc ça, c'est vraiment notamment les fans de la première heure. Mais nous, on a eu une très belle tournée. Et ensuite, on est arrivé le jour, je me souviens, le mercredi de la sortie. On nous a dit, tiens, allez présenter le film à, comment ça s'appelle, dans le centre de Paris, aux Halles, au UGC Les Halles, à 10h du matin. Et il y avait 30 personnes dans une salle de 500. On s'est dit, on s'est retrouvés tous les trois, les 30 personnes éparpillées dans la salle. Donc on leur a dit, bah, non, regroupez-vous, quoi, mettez-vous ensemble. Quand je dis 30, c'était même peut-être 20. Hein. Et bon, on fait le truc, alors on se dit, oh là là, ça, c'est un désastre, c'est vraiment un désastre. Quoi. Et le type de la salle nous dit, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est génial, il y a 30 personnes. D'habitude, il y a 5 personnes. On dit, bon, enfin oui, bon, enfin, 30, c'est quand même pas terrible. Et au fur et à mesure de la journée, alors ça, c'était la première séance à, je ne sais plus, 10 heures. À midi, c'était moitié plein. À 14 heures, c'était plein. Et à 22 heures, ils rajoutaient des salles. Et donc là, on s'est dit, OK, super. Mais bon, pour nous, ça nous paraissait normal. On sortait d'une tournée avec 500, 600, 700 personnes dans les salles. Donc c'était... Et c'est vrai que le soir, la première sortie, enfin, le soir de la sortie, on était chez, c'était Mars qui distribuait. Et Célérier nous annonce le chiffre de, je crois, 120 000 personnes. Moi, je me dis, 120 000, ouais. Je sais pas, je me rends pas compte, quoi. Je me dis, attendez, il y a 68 millions de Français, 120 000 qui viennent voir le film, c'est quand même pas énorme. Et en fait, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Et mal, et en particulier, quand je vois les résultats maintenant, c'est vrai que c'est absolument énorme.
Casse départ ne passe pas inaperçu. Évidemment, le film a beaucoup de succès, donc le film s'attire aussi beaucoup de critiques. Beaucoup sont négatives, pas forcément dans la presse, mais parmi les spectateurs qui sont un peu décontenancés par ce film qui ose se moquer de l'esclavage.
Comme j'ai toujours dit, je comprends qu'il y ait des gens qui étaient un peu froissés par, par Casse-Départ, même si je pense qu'ils n'ont pas voulu en tout cas aller au bout du film et saisir forcément le propos du film. Après, je pense que chacun a son sacré, je peux comprendre que ce soit... Moi, je cite souvent cet exemple-là. Mon grand-père maternel a été en captivité pendant la Seconde Guerre mondiale en Pologne. Et pour lui, un film de Roberto Benigni, La vie est belle, c'est inconcevable de faire un film là-dessus. Alors lui, il a vécu dans sa chair, mais pour lui, il a perdu des camarades là-bas, il n'accepte pas. Donc voilà, je comprends que chacun ait son sacré, ça n'empêche que moi, Roberto Benigni, son film, je trouve qu'il est super, que c'est très beau. Que c'est... Donc voilà, après, c'est le point de vue de chacun que je respecte. Moi, en tout cas, comme je dis, la force de ce film, c'est sa sincérité. Et puis c'est aussi sa résonance, parce que même si on va dans le passé, ce qui était intéressant, c'était le traitement de l'homme noir ou métis dans la France actuelle. C'est ça qui m'intéressait. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était passer par le passé pour mieux traiter le présent. C'est pas juste une très bonne comédie comme Les Visiteurs où on se contente de changer d'époque pour faire marrer. Il y a aussi un propos dans ce film. C'est pas comme quand tu fais un spectacle, hein, tu vois pas les salles pleines tous les soirs, machin, même si on l'a fait en avant-première. Non, après le plaisir, surtout pour des gens de scène, moi je me rappelle, une fois que le film était sorti, il m'est arrivé d'aller me glisser dans des salles pour entendre le rire des gens. Parce que ça, on l'a quand on est sur scène, mais on l'a pas finalement quand on est au cinéma.
Le succès est tel que le film traverse les frontières, et même à Hollywood, il y a un réalisateur qui voulait l'adapter, qui voulait en faire un remake américain. Mais les États-Unis ont un rapport très complexe avec cette période et ce sujet, et le projet a capoté.
Vous savez, qu'à ce départ, à un moment, John Singleton, le réalisateur de Boys in the Hood, l'a vu et il voulait l'adapter aux États-Unis. Finalement, ça ne s'est pas fait. J'ai toujours pensé que pour moi, c'est une bonne chose que ça ne se soit pas fait, parce que je pense qu'aux États-Unis, ça aurait été accueilli un peu à coups de boulet rouge, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est très touchy. Voilà.
Casse-Départ est devenu un classique, multi-rediffusé à la télévision. Et avec le recul, Fabrice Eboué est très fier de ce film.
Ce dont on se rend compte avec Casse-Départ, c'est que 10 ans après, il passe tous les ans à la télé, tous les ans, il fait des bonnes audiences, et tous les ans, les gens m'en reparlent. Et donc, c'est devenu un classique, il faut le dire, et un classique familial, et qui dépasse les générations qui l'ont connu en premier aujourd'hui. Donc voilà, le bonheur du film Casse-Départ, il est là, c'est que le film reste.
12 ans plus tard, Casse-Départ reste en tout cas ancré dans les mœurs. Premier film français sur l'esclavage, Casse-Départ reste seul dans sa catégorie au box-office encore aujourd'hui. Il n'y a pas eu, après le succès du film, beaucoup de fictions françaises qui se sont emparées de cette époque. Il y a eu seulement un téléfilm avec Joséphine Ange-Gardien, ce qui rend Casse-Départ d'autant plus rare. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous y abonner sur votre plateforme préférée et retrouver sur le site de bfmtv.com la série d'articles dérivés avec des anecdotes inédites et 3 articles supplémentaires. À bientôt !